RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et alors que les championnats du monde de ski alpin se sont ouverts hier en Savoie et que les vacances d'hiver ont commencé pour la zone A, on s'interroge ce matin sur l'avenir de la montagne. Dans le contexte du réchauffement climatique et de l'inflation des derniers mois, les sports d'hiver sont-ils voués à disparaître? Et si oui, est-ce bien grave? Ou au contraire, est-ce une opportunité de renouveler notre approche à la montagne? La question reste ouverte. En tout cas, tout le monde ne peut pas s'offrir des vacances à la neige. Alors justement, comment rendre la montagne un peu plus accessible? On vous présentera quelques associations, ce sera à partir de 10h. Soyez les bienvenus, touchous et en direct avec vos témoignages. Est-ce que les sports d'hiver vous semblent voués à disparaître? Est-ce que les mutations encore peuvent être une chance pour renouveler notre lien à la montagne? Et puis comment imaginez-vous ces liens entre nous, les humains, et puis la montagne dans les décennies à venir? Et quelles activités feront vivre les populations qui habitent ces espaces? Enfin, comment, à votre avis, on peut concrètement opérer la transition écologique et donc touristique en montagne? Voilà, vous avez de quoi venir à l'antenne au 04 72 38 20 23, par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis, 04 72 38 20 23.
Bonjour Anne Kerléo.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes la rédactrice en chef écologie RCF et ce matin on parle donc de la transition climatique et donc touristique en montagne et plus globalement de l'avenir de la montagne.
Oui, la question est à la fois passionnante, vertigineuse et stimulante pour notre capacité à inventer, à imaginer des futurs durables. Car la montagne, c'est un type de territoire particulièrement vulnérable au dérèglement climatique. Elle est donc un peu comme un aiguillon pour nous pousser à agir enfin à la hauteur des enjeux, des enjeux climatiques, mais aussi de la biodiversité et globalement de tous les enjeux écologiques. Elle peut être comme une sorte de laboratoire pour inventer le monde durable qui seul permettra notre survie sur Terre. Alors, que sera la montagne dans les années à venir? Quelles activités respectueuses du vivant et non climaticides pourra-t-on y pratiquer? Quelle économie pourrait s'y construire pour permettre aux habitants des territoires de montagne de continuer à y vivre et à bien y vivre? La montagne pourra-t-elle demeurer un lieu de ressourcement pour les citadins qui constituent la grande majorité de la population? Et si oui, comment? Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut abandonner? Qu'est-ce qu'il faut inventer? Voilà bien des questions auxquelles on va essayer d'apporter des éléments de réponse au cours de cette émission.
Avec nos deux invités, Anne, qui sont avec nous jusqu'à 10h.
Oui, et d'abord, bonjour à vous, Freddy Maignan.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Vous êtes le président de la section française de l'association Mountain Wilderness, une association qui prend soin de la montagne et de nos liens avec elle. Mountain Wilderness travaille pour faire évoluer les comportements vis-à-vis de la montagne via d'une part des actions de terrain et puis aussi tout un travail de communication auprès du grand public, mais surtout des décideurs politiques, économiques et des différents acteurs de la montagne. Vous êtes avec nous depuis le studio de RCF Isère à Grenoble et je remercie au passage Stéphane Debuchère qui assure le duplex. Et puis des Alpes, on part dans le Jura, en duplex cette fois du studio de RCF Besançon, où je remercie Isabelle Jouffroy qui nous permet ce duplex. Et on accueille Olivier Hérard, bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Vous êtes le directeur du syndicat mixte Métabief Mont d'Or. La station de Métabief, c'est le plus grand domaine skiable du Jura. Et si on vous a invité, c'est parce que on entend pas mal parler de votre station, un peu comme une pionnière en matière de réflexion et aussi déjà d'action sur l'adaptation à cette situation climatique dont on parle ce matin. Et vous avez d'ailleurs été recruté, ou en tout cas votre mission, vous nous en direz plus, est en grande partie comme directeur de travailler à cette transition. Je précise que vous êtes glaciologue de formation, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est exact.
Merci à tous les deux de nous accompagner dans Je pense donc j'agis. On ne change pas nos bonnes habitudes, on va commencer par la chronique Tout est lié. Et ce matin, nous accueillons Féris Barkat.
Bonjour Féris.
Bonjour.
Alors le thème de la montagne vous inspire une métaphore ce matin.
Oui, en effet. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la métaphore de nos objectifs, de nos rêves. C'est un peu ça la montagne, non? Pour la gravir, on doit se surpasser et enfin atteindre le sommet. Dans cette quête, on ne commence pas tous avec le même matériel, avec la même carte pour se repérer. Certains ont des raccourcis, bref, c'est ce qu'on appelle les inégalités. Mais dans le fond, peu importe. La vitesse à laquelle on avance, on finit tous, à peu près, par avoir chacun sa propre montagne.
Et alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on atteint le sommet ?
Eh bien, c'est là tout le problème. Dans le mot analogue de René Daumal, ce dernier exprime cette idée intéressante, qui dit que finalement, gravir une montagne, c'est la faire descendre. Lorsqu'on est en bas, la montagne appartient au domaine des cieux. Mais une fois gravie, on se tient sur elle. Et cette montagne n'appartient plus aux cieux. C'est devenu ce sur quoi on se tient, comme le sol auparavant. Par contre, une autre montagne, plus haute, appartient encore aux cieux. Nous voilà donc repartis vers une autre montagne, un autre objectif. Mais dans le fond, est-ce que le chemin jusqu'en haut n'est pas plus jouissif que le fait d'atteindre le sommet ? Le sommet ne devrait-il pas être un prétexte pour profiter de la randonnée ? Au lieu d'être frustré de ne pas l'atteindre, devrions-nous pas nous en réjouir ? Moi, j'en sais pas grand-chose. J'en sais rien. Par contre, je sais que ce que je raconte, ça ressemble à ces poncifs qui disent que c'est le voyage qui compte et pas la destination. Confucius le disait déjà, le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Albert Camus aussi, dans le mythe de Sisyphe, explique que Sisyphe, puni par les dieux, est condamné à redescendre à chaque fois qu'il arrive en haut. Camus écrivait que la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux.
Camus parle aussi de l'absurde dans le mythe de Sisyphe.
Oui, c'est cet éternel recommencement de la vie quotidienne d'abord, métro, boulot, dodo, on peut voir, ou avec nos objectifs, ces montagnes à gravir qui se succèdent. Et moi, personnellement, je ne peux m'empêcher de penser que l'absurdité de la vie est telle qu'on devrait remercier les montagnes d'exister. Ce sont elles qui nous raccrochent à l'existence, qui nous permettent de nous auto-persuader qu'il y a un sens de tout ça. Parfois, j'ai peur du jour où il n'y aura plus de montagnes à gravir. Le jour où on n'aura plus d'histoire à se raconter pour se mettre en mouvement. Le jour où on aura la conscience nue face à l'absurde. Après, je me souviens qu'il y a le réchauffement climatique et plein d'autres problèmes sur Terre. Donc là, je suis rassuré. Ah non, en fait, pas vraiment. Parce que certains arrivent tout de même à se persuader qu'il n'y a aucun problème. Que tout va bien. Un peu comme quand j'étais enfant. Tout allait bien. Ou plutôt, tout allait mal. Mais je n'en savais rien.
Merci beaucoup, Féris Barkhad, pour cette chronique, pour ce point de vue. La semaine prochaine, c'est Stécial Grain que nous retrouverons toujours pour Tout est lié. Une chronique à réentendre sur rcf.fr. Vous aussi, vous avez la parole pour réagir, pour nous donner votre avis au 04 72 38 20 23. En tout cas, Anne, ça nous donne vraiment du grain à moudre dans cette émission.
Oui, alors c'est la fibre de philosophe de Féris Barkhad qu'on a entendu ce matin, philosophe qu'il est, tout jeune philosophe de 20 ans. Freddy Maignan et Olivier Erard, qu'est-ce que ça vous inspire, cette chronique philosophique pour entrer dans cette émission ? Peut-être Freddy Maignan pour commencer.
Clairement, merci pour cette petite chronique. moi, je crois vraiment qu'on est on est dans un point. C'est bien qu'il questionne comme ça notre rapport à la montagne, parce qu'on a eu une histoire ces dernières décennies qui a apporté des choses à la vie de la montagne, c'est-à-dire qu'on a développé des activités de sport d'hiver, comme on dit, ça n'existait pas avant. Ça, c'est depuis en gros 6-7 décennies, quoi. Et maintenant qu'on se questionne sur le rapport à la montagne, je pense que c'est assez fondamental. C'est-à-dire, est-ce que c'est simplement un terrain de jeu ? Est-ce que c'est un stade en pente ? Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus profond, beaucoup plus intense, beaucoup plus fort en expérience intime, en expérience personnelle, en expérience collective ? Vous savez, juste la montagne, quand on regarde le continent européen, ce sont les derniers massifs, les derniers territoires où l'homme n'habite pas en permanence, où il y a les routes s'arrêtent, où il y a les dernières maisons habitées. Donc qu'est-ce que c'est que ce territoire où on peut s'immerger sur la terre, où on peut reprendre pied sur la terre ? Je crois qu'il y a des questions assez fondamentales qui se jouent en montagne, et effectivement la montagne est essentielle, me semble-t-il.
Même question, Olivier Erard, quels échos pour vous dans cette chronique de Féris Barkhad ?
Ouais, moi ça m'évoque deux choses. La première, que la montagne est chargée d'imaginaire, de symboles. Elle l'est sur tous les continents, là où il y a de la montagne, il y a énormément de projections. Et c'est vrai que du coup, tout ce qui va se faire sur la montagne est chargé de représentations, et tout ce qui va aller à l'encontre d'imaginaire va peut-être heurter plus les inconscients collectifs. En tout cas, c'est un lieu où je pense qu'il y a une sensibilité humaine, environnementale, qui est exacerbée. Puis la deuxième chose, l'évocation du chemin qui est plus important peut-être que la destination. Moi, ça m'évoque effectivement le mouvement qu'aujourd'hui on doit entreprendre, qui est un mouvement qui ne doit pas s'arrêter et qui n'est pas non plus un mouvement d'accélération ou de perte vers l'avant en essayant de combler du vide, mais un chemin où chaque pas est à savourer. Donc moi, je reprendrai la citation de Lao Tzu où un chemin de 1000 pas commence par un pas. Voilà.
Bon, on voit bien que on va parler concret, on va parler économie, on va parler vie à la montagne. Mais comme souvent dans cette émission, on aime bien conjuguer tout ça avec un peu de poésie et d'imaginaire pour nourrir finalement nos réflexions plus concrètes. Alors, si on descend maintenant sur le concret, justement, je voudrais que chacun de nous raconte à sa hauteur, à lui, à son expérience de la montagne, dans le Jura pour l'un, dans les Alpes pour l'autre. D'ailleurs, vous allez peut-être nous dire que le Jura, en vrai, c'est aussi les Alpes un peu plus loin. Mais qu'est-ce que vous voyez à l'échelle de votre vie changer de vos propres yeux et qui fait qu'aujourd'hui, on doit réinventer la montagne, Olivier Hérard ?
Alors oui, le Jura, c'est quelque part une conséquence hein, de l'élévation des Alpes, mais ça reste un massif de moyenne montagne. Donc effectivement, en moyenne montagne, les impacts du réchauffement, parce que le dérèglement en moyenne montagne et en montagne se traduit par un réchauffement, en tout cas en Europe, et l'Europe se réchauffe 2 fois plus rapidement que toutes les autres aires du globe, et la montagne se réchauffe plus rapidement que la plaine. Donc on peut dire que la montagne européenne et la moyenne montagne européenne est peut-être une des aires de géographique qui connaît l'accélération la plus forte du réchauffement climatique. Nous, on le voit concrètement alors à m'établir à 1000 mètres entre 1970 et le milieu des années 2000, la température a augmenté sensiblement de 0,5 degrés en hiver, température moyenne. Puis elle est passée au-dessus de zéro à 1000 mètres. 1000 mètres à Métabier, c'est Mout. Donc pour Mout, dans l'imaginaire français, c'est le record de froid dans les années 80, moins 36 et quelques degrés. Donc une imaginaire petite Sibérie, mais c'est plus ça. Hein. Donc on est passé au-dessus de 0 degré à 1000 mètres depuis le milieu des années 2000. Et ce qui est surtout très impressionnant, et à vue d'homme, ça l'est, parce que moi, effectivement, ayant étudié la climatologie, j'ai toujours été prudent entre ce qu'on peut voir à l'échelle humaine en termes de météo et ce qui peut se traduire en termes d'effets climatiques. Ce qui est vertigineux, c'est cette accélération de cette température moyenne hivernale depuis le milieu des années 2000, où en fait on a pris un peu plus d'un degré en 20 ans, même pas 20 ans, en 15 ans. Donc on voit que depuis le milieu des années 2000, en fait, ce réchauffement s'accélère. Et 3 fois plus rapide que ce qu'on a connu entre 1970 et les années 2000.
Bon, au passage, j'ai bien noté qu'on ne dit pas Métabief, mais Métabier, pardon pour l'erreur. Freddy Maignan, vous, qu'est-ce que vous voyez de vos propres yeux depuis le début de votre vie à la montagne en termes d'impact du réchauffement climatique ?
Alors, juste un tout petit mot et je réponds à la question immédiatement après, pour dire que quand on parle montagne, souvent dans les médias, c'est normal, on parle ski, surtout à cette période-là. Il faut juste avoir en tête qu'il y a plus de 80% des Français ou des Européens qui ont un regard sur la montagne, mais pas forcément le regard du ski, parce qu'ils en font pas. Donc la question de la montagne, je trouve que c'est très très fort dans les imaginaires. C'est quelque chose, et j'essaie de me mettre à la place des citadins, des grandes villes de France et d'Europe, et j'imagine que c'est ce qu'il y a au-dessus, c'est ce qui apparaît de la terre, ce qui émerge de la terre, ce qui est à l'image de la terre, avec un côté éternel, un côté majestueux, un côté impressionnant, un côté, bon, des côtés imaginaires chargés, on va dire. Pour y vivre à la montagne et en haute montagne, parce que j'ai aussi été gardien de refuge à 3100 mètres pendant 10 ans, c'est quelque chose qui me fait profondément vibrer, cette expérience montagne. On aura l'occasion d'y revenir, mais pour aller dans le sens de ce que disait Olivier à l'instant, c'est d'une beauté et d'une fragilité, mais qui, excusez-moi, qui pète à la figure. C'est-à-dire que moi, j'ai vu les montagnes s'écrouler, j'ai vu les glaciers reculer d'une année sur l'autre, je le vois, c'est marquant, c'est d'un côté traumatisant, d'un autre côté en se disant, bon, il n'y a pas le temps d'être traumatisé, il faut prendre le défi à bras le corps et il faut se battre parce que nos montagnes sont à l'image de notre terre, belle et fragile.
Alors, si on parle maintenant, là, on parlait de ce qu'on voit, en fait, et ce que vous nous dites, c'est que dans la montagne, on voit encore plus l'effet du réchauffement climatique, et ça va encore plus vite, et encore plus vite que tout ce qu'on pouvait imaginer. Quels sont maintenant, en montagne, les impacts de l'activité humaine, en fait ? Quand on pense spontanément aux remontées mécaniques, aux mobilités aussi, pour arriver jusqu'aux stations, mais quels sont les différents impacts de l'activité humaine, par exemple, Olivier Erard, dans une station de ski comme Métabier ?
Oui, vous avez raison de préciser au préalable qu'il n'y a pas que des stations de ski en montagne et que l'humain en montagne, alors en moyenne montagne peut-être encore plus puisque la montagne est accessible partout. Donc en moyenne montagne, vous avez du pastoralisme, de l'exploitation forestière. Vous avez effectivement des activités touristiques et dans ces activités touristiques, vous avez le ski et les infrastructures de remontées mécaniques et les pistes qui en fait font des zones de fixation où on peut considérer qu'on est dans une espèce de tourisme de masse et donc avec tout ce que ça induit en termes d'infrastructures d'hébergement et puis d'infrastructures de transport. Donc je dirais que les impacts premiers de l'installation de telles infrastructures sont d'abord l'immobilier et les infrastructures de transport qui ont été aménagées pour accéder à tout cela. Après, les infrastructures de remontées mécaniques et les pistes se situent toutes sur des zones fragiles, par définition. Comme l'a dit Freddy, la montagne est un lieu fragile. C'est un lieu extrême, entre guillemets, pour l'environnement. Donc, ce qui s'y développe est forcément rare et forcément peu fréquent. Donc, on est forcément sur une biodiversité d'une richesse incomparable. Donc, quel que soit, je dirais, le mètre carré touché sur la montagne, c'est un mètre carré riche et c'est un mètre carré essentiel. Voilà, donc... Je dirais que tout coup de pelle et moi-même j'en ai conduit des coups de pelle.
Donc d'ailleurs ce moment, je crois que cette semaine au tribunal, la semaine dernière, il y a quelque chose qui concerne Métabier, qui est une retenue collinaire, qui est revenue au tribunal 10 ans après, je crois.
Oui, c'est ça. C'est une suspicion d'ensevelissement de fleurs protégées pendant les travaux de la retenue collinaire qu'on a réalisée en 2013. Preuve qu'effectivement, tout aménagement a potentiellement un impact fort. Voilà, que malgré une réglementation qui est de plus en plus contraignante, on a des zones de flou en termes de connaissances, hein, puisque en plus les fleurs ne fleurissent pas tous les ans de la même façon. Bon, bref, moi je vais pas commenter l'affaire qui sera rendue, dont le jugement sera rendu le 1er mars, mais effectivement, il y a.
Mais pourquoi on comprenne bien juste, c'était une retenue collinaire pour produire de la neige artificielle, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc c'était en 2013 notre opération de neige de culture à Métabier. Et voilà, donc effectivement, toutes ces infrastructures aujourd'hui vraiment très encadrées d'un point de vue réglementaire, néanmoins produisent de la destruction, alors qu'on peut compenser. Alors ça, on peut en discuter longtemps, de la compensation environnementale, parce qu'est-ce qu'on arrive finalement à compenser la destruction de 100 mètres carrés d'une pelouse où il y a des gentians à col, des nigritelles noirates. La loi d'ailleurs ne nous demande pas forcément une exigence de résultat, mais une exigence de moyens, donc preuve que c'est pas toujours facile, voire pas toujours possible. Donc oui, c'est une activité qui, par essence, a des impacts. Donc je le disais, les transports, l'hébergement, donc avec tout ce que ça induit comme utilisation de surface, plus les émissions de gaz à effet de serre. Et puis les infrastructures ski qui, effectivement, impactent, enfin, s'établissent sur un environnement par définition fragile.
Sur cette même question, Freddy Maignan, peut-être qu'on peut regarder du côté, par exemple, de ce qui est en train de se passer en ce moment, alors qu'il n'est pas du tout du même ordre que les touristes qui vont skier l'hiver. Là, c'est les championnats du monde en Savoie. Là, l'impact, il est colossal. D'ailleurs, je crois que ça fait débat, y compris à l'endroit où ça se passe.
Oui. Mais c'est un peu le symbole du problème dans lequel on est. C'est-à-dire qu'au départ, on était en montagne. Au départ, on vivait avec la montagne. On s'adaptait à la montagne. Aux conditions météo, aux conditions de la pente, aux conditions du froid et tout ça. Petit à petit, nous, les humains, nous transformons la montagne un peu comme nous avons transformé en bas. C'est-à-dire que nous aménageons tout. Tout ce qui est vierge, tout ce qui est naturel, quelque part, ça dérange. Parce que, regardez, le championnat du monde de ski, c'est qu'en fin de compte, plutôt que de prendre les conditions telles qu'elles sont aujourd'hui, en bas des pistes, la piste principale Homme à Courchevel, et il y aurait 10 cm de neige. Donc, pour que les championnats puissent se tenir, il a fallu mettre 300 000 mètres cubes de flotte, de neige, pardon. Il a fallu faire un stade qui soit, alors, au nom des critères de la Fédération Internationale de Ski pour mettre effectivement tous les coureurs à égalité, ce qui peut se comprendre, du début, du premier qui part au dernier, il faut une couche de 50 cm de neige, là où il y en avait 10, sur un stade colossal, quoi. Donc voilà, on transforme la montagne en un stade. Encore une fois, une petite parenthèse, je crois qu'il y avait, de la part des organisateurs locaux à Courchevel, une vraie volonté d'essayer de faire en sorte que ça soit pas n'importe quoi et qu'on limite les impacts. Mais on touche une limite objective, c'est qu'entre les directives de la Fédération internationale auxquelles on se soumet, et auxquelles on candidate quand même, et nos propres habitudes de tout vouloir maîtriser, de pouvoir organiser, en fin de compte, est-ce qu'on n'est pas en train de dénaturer la montagne et dénaturer notre rapport à la montagne ? Parce que le rapport à la montagne, par définition, c'est de vivre avec, c'est de s'adapter, c'est de prendre en compte les éléments. J'ai été gardien de refuge, moi, quand il faisait mauvais, il faisait mauvais, quand il faisait chaud, il faisait chaud, et voilà, et il y a des moments où il y avait personne, et il y avait des moments où il y avait du monde, il y avait des moments où c'était dur, il y avait des moments où c'était génial. Et là, est-ce qu'on n'est pas en train de tout aseptiser, de tout normaliser? C'est une vraie question qui, je dirais, bien sûr, le réchauffement climatique qui est très très fort, qui est impactant, mais au-delà de ça, notre propre culture montagne, est-ce qu'on n'est pas en train de l'enfouir sous des normes de la vie ? Vous savez, ça me fait juste un peu réfléchir à... Avant d'être en montagne, j'étais en ville, et une chose qui m'avait marqué, c'était que dans l'aménagement de la ville, il y avait les terrains qui n'étaient pas bâtis, c'était des terrains vierges, sous-entendu des terrains qui servaient à rien. On a un rapport à la nature, un rapport au vivant, mais pour qui on se prend, quoi? On se prend pour les seigneurs sur la terre nous appartient, c'est à nous, on en fait ce qu'on veut, c'est nous l'essentiel. Je ne veux pas nier l'importance de la vie économique des humains, je serais le dernier à vouloir le nier. Mais pour qu'il y ait une vie économique pérenne, il faut qu'elle soit compatible avec la vie terrestre. Si notre vie économique n'est pas compatible avec la vie terrestre, on va tous y laisser notre peau, quoi. Et la terre avec.
On s'interroge ce matin dans Je pense donc j'agis sur l'avenir de la montagne. Quelle montagne à l'heure de l'urgence écologique? Venez participer au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. J'aimerais justement vous lire un mail de Martine qui nous dit: je me sens à la fois concernée et impuissante sur ce sujet, car ayant grandi en Haute-Savoie et étudié à Grenoble, je suis très attachée aux paysages magnifiques et diversifiés que l'on voit en montagne. Pourtant, je me questionne sur la façon dont réduire la pollution atmosphérique dans ces régions. Quand on lève les yeux depuis Grenoble ou de la vallée d'Arve, les montagnes sont très souvent prises dans une épaisse couche de pollution. Pardon, j'ai du mal à parler ce matin. Je ne crois pas que les activités soient plus polluantes qu'ailleurs, mais la géographie des lieux ne permet pas d'évacuer la couche de pollution. Et cette problématique écologique est particulièrement visible en montagne et devrait toucher chaque personne qui y vit. Je trouve ça intéressant, hein, ce que nous dit Martine, notamment sur la géographie des lieux, Olivier Hérard.
Oui, la montagne a un effet. Alors, on croit toujours qu'il y a l'air pur en montagne. Alors, en moyenne montagne, il peut arriver d'ailleurs qu'il y ait plus d'ozone qu'en ville. Il y a des effets de concentration, il y a des effets atmosphériques qui font qu'à un moment donné, on a des effets de couvercle qui bloquent l'évacuation. Enfin, il y a effectivement une concentration qui peut être supérieure en montagne. Donc ça peut paraître surprenant, mais effectivement, c'est pas toujours l'air aussi pur qu'on pourrait l'imaginer.
Alors, Martine disait qu'elle se sent concernée mais impuissante. Justement, avant d'entrer dans ce que vous, les acteurs de la montagne, vous réfléchissez, ce que vous faites déjà, ce que vous engagez, il y a notamment eu des états généraux du tourisme en montagne il y a 2 ans, je crois. Je voudrais qu'on parle de ceux qui viennent à la montagne, tous les citadins. Les chiffres, moi, que j'ai vus, c'est environ 13% des Français qui vont skier aux vacances de février. Et puis, on entend beaucoup de témoignages de gens qui disent, moi, j'y vais plus, ou bien j'irai plus, parce que l'inflation, parce que les enjeux climatiques. Ça, c'est du ressenti. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus, Olivier Hérard, vous qui dirigez une station, est-ce que déjà on ressent dans les chiffres une baisse de la fréquentation des sports d'hiver?
Alors, au niveau national, depuis 2010, on a une stagnation, on va dire une légère décroissance, je crois que c'est moins 0,4% de fréquentation des domaines skiables français. Au niveau de notre station, c'est difficile à dire, parce qu'en fait, nous, dès qu'il y a de la neige, il y a du monde. Et en fait, on n'est pas sur un modèle stable, hein, nous, déjà, par définition. Donc, nous, c'est la neige qui fait la clientèle. Donc, ce qu'on constate, c'est que dès qu'il y a de la neige, on est pris d'assaut. Voilà, donc ça, je peux pas dire autre chose que... J'ai pas une approche linéaire de la fréquentation, parce que nos hivers ne sont surtout pas linéaires. Donc, notre cas est... je pense que c'est le cas de toutes les stations de moyenne montagne qui sont fortement influencées par l'enneigement. Il est difficile pour elle de dire s'il y a un effritement de la pratique ou pas. Bah, sur la tendance nationale, on voit qu'il y a une stagnation, voire une diminution. Voilà.
Freddy Magnan, vous, quelle est votre perception de la manière dont le grand public, ou en tout cas les gens qui fréquentent la montagne, que ce soit d'ailleurs pour le ski en hiver, ou que ce soit peut-être plus largement, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a une élévation du degré de croissance de notre impact à nous les humains sur la montagne, et du coup un changement de comportement, ou est-ce qu'on n'en est pas encore là?
Oui. Enfin, oui, je pense que là où ça a le plus bougé ces 10 dernières années, c'est pour les professionnels, les acteurs de la montagne, où là le mouvement a été ultra ultra rapide, parce que c'est ultra rapide sur le terrain, et que quand on est sur le terrain tout le temps, on peut pas se tromper, quoi. On le voit, quoi. Donc là, on le voit, c'est même marquant, quoi. Donc témoigne chez les professionnels de la montagne en général, la prise de conscience est forte. Voilà, clairement, même si on ne sait pas encore, on sent bien qu'il y a un problème lourd, mais on ne sait pas forcément encore comment le prendre, quoi, individuellement, collectivement. Chez les pratiquants de la montagne, chez tous les gens qui viennent, il y a des mouvements contraires, c'est-à-dire c'est compliqué d'analyser la fréquentation et parce que on parlait à l'instant, Olivier parlait de la fréquentation du ski, et encore une fois, ne restons pas qu'au ski, pas parce que je veux pas, parce que la montagne c'est objectivement beaucoup plus que ça. Par exemple, ou à l'échelle de l'ensemble des montagnes françaises, je vais prendre juste un chiffre, hein, sur les 11 milliards générés par le tourisme, il y en a 6,2 qui sont générés en dehors du périmètre des stations. Ça veut dire que les stations ont un rôle, clairement, mais il y a un tourisme diffus, il y a une pratique diffuse dans l'ensemble des vallées, et qui est fort, et qui pèse autant, voire plus, que ce qui peut se passer économiquement, je parle dans les stations. Et donc là, la prise de conscience, je pense qu'elle est là. Elle a du mal encore à se traduire en actes. On le voit par exemple chez tous ceux qui arrivent en montagne, notamment sur toutes les questions de la mobilité, où là, pour le moment, tout le monde se dit qu'il faut faire autrement, et ça bouge, mais ça bouge doucement quand même, bien trop doucement par rapport à ce qu'il faudrait. Alors, c'est à la fois des actes individuels, des choix individuels, mais en même temps, quand on aborde la question de la mobilité, il y a aussi des choix structurants, c'est-à-dire est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on peut pas, quoi. Et il y a les deux, hein. Il y a culturellement comment on bouge, et il y a la possibilité ou non de le faire. Mais quand même, j'ai tendance, je dirais, de cette question de la fragilité, cette question de l'impact, de nos impacts, est de plus en plus présente. Il y a une prise de conscience, on en est dans l'étape où il y a une prise de conscience et où la question est de comment on passe à l'acte, comment on passe à agir individuellement, mais pas que individuellement. Et ça, c'est un vrai débat qu'il faut qu'on ait. Tout le monde a entendu parler des colibris, je fais ma part et puis on verra bien, ça ira bien un jour. Moi, je crois que faire sa part, c'est le prérequis, c'est indispensable si on fait voilà. Mais si on ne fait que sa part individuellement, s'il n'y a pas une réflexion collective sur comment on fait pour avoir un autre rapport à la montagne, pour avoir moins d'impact, pour développer une relation, je dirais, culturelle, riche, différente, respectueuse de la montagne, ça passe aussi par des choix collectifs, quoi.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il faut penser et agir. Ça tombe bien, c'est ce qu'on fait ce matin sur RCF. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, à tout de suite.
L'émission Écoute dans la nuit vous invite à prendre part à une conversation autour d'un thème spirituel, philosophique, culturel ou autour d'une question de société. Louis Auxil Maillard et son invité écouteront vos témoignages et partageront avec vous des temps de lecture, de méditation ou de réflexion. Écoute dans la nuit, c'est du mardi au vendredi à 22h.
En ce moment, la boutique RCF vous propose de profiter d'une remise exceptionnelle de 20% sur toute la collection Les Essentiels. Spiritualité, psychologie, prière, famille, philosophie, tous les coffrets à moins 20%. Profitez-en! Rendez-vous dès maintenant sur boutique.rcf.fr.
Allez, 9h44 sur RCF. Les sports d'hiver vous semblent-ils voués à disparaître? Et puis, quelles activités feront vivre les populations qui habitent ces espaces? Comment, à votre avis, on peut concrètement opérer la transition écologique et donc touristique en montagne? Vous avez de quoi discuter avec nous. On vous attend au 04 72 38 20 23. Ce sera après une chanson du chanteur Ours.
Certains monuments sont si grands que l'on n'en voit qu'une partie seulement, le nez collé trop près souvent du Colisée, du dôme de Milan. Certains monuments où l'on se bouscule pour voir leur toit, leur coupole, leur capsule. Un peu de retrait, un peu de recul pour voir en vrai Big Ben et sa pendule. Sans distance et sans s'éloigner suffisamment de l'immense, que voit-on vraiment? Que voit-on vraiment? Si vous êtes monté, que vous avez grimpé tout là-haut sur les montagnes de Corée, si vous êtes monté, que vous nous voyez, dites-nous comment. Et nos cafés crème, que sait-on vraiment des cultures lointaines, d'autres tribus, des aborigènes? Nous dans l'hystérie, dans l'anxiogène, dans nos soucis, dans nos problèmes, que sait-on vraiment des autres peines, d'autres musiques et des autres thèmes? Sans distance et sans s'éloigner suffisamment de l'immense, que voit-on vraiment? Si vous êtes monté, que vous avez grimpé tout là-haut sur les montagnes de Corée, si vous êtes monté, que vous nous voyez, dites-nous comment.
Beaucoup de poésie dans cette chanson d'Ours, Les montagnes de Corée sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo.
Et nos deux invités qui sont avec nous jusqu'à 10h, Freddy Maignan, vous êtes le président de la section française de l'association Mountain Wilderness, et Olivier Erard, directeur du syndicat mixte Métabier Mont d'Or. Alors on continue de vous lire également par mail à direct@rcf.fr. Jacques nous dit: ce fut d'abord le choc. À 11 ans, arrivant l'été 1961 en colo à Morion, Courchevel, dans un chalet fraîchement construit au milieu de l'alpage, avec le torrent en fond de vallée, les nuages qui montaient vers nous et nous isolaient du monde, j'en ai été marqué à vie. Mais le ski, nourri ensuite de lectures, commençant par Frison Roche, je me hérissais contre cette nouvelle mode futile dont je redoutais déjà qu'elle dénature notre rapport à ce monde magique, fascinant parce que beau, inaccessible, exigeant, dont on doit accepter les règles, comme la mer. Et je me rebellais devant la perspective de voir un jour ces montagnes magiques où s'est forgé mon adolescence transformée en page blanche, ce qui est arrivé. Beaucoup de poésie également chez nos auditeurs hein, ce matin. Freddy Maignan, comment vous l'entendez ce témoignage?
Alors, d'abord, deux choses. La première, c'est que Je pense qu'il faut être critique, lucide sur ces périodes-là, ces dernières décennies. Effectivement, votre auditeur témoigne fortement sur l'arrivée du ski. Moi, j'ai personnellement pas envie de faire le procès du ski. Quelque part, c'est notre histoire. C'est l'histoire de France. Une partie de l'histoire de France, la nôtre. On peut, comme d'autres choses, il y a des choses qui ont été bénéfiques, il y a des choses qui ont pesé. Et il y a des choses, des fois, où il faut savoir tourner la page. Voilà. Et moi, je pense qu'on est dans cette situation. Donc, ça a fait vivre, objectivement, ça a fait vivre les vallées. Il faut pas non plus, il faut en tenir compte. Hein. J'ai dit, l'économie, elle est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est quand même important. Il faut que ça soit compatible. Là, ça l'a fait vivre. Le problème maintenant, c'est que, d'une part, réchauffement, d'autre part, au-delà du réchauffement, la biodiversité, quand on dit réchauffement, faut englober l'ensemble des crises. Hein. On fait des raccourcis. Mais plus que ça, hein, je crois qu'il y a une vraie question fondamentale. Si on reprend nos 500 millions d'Européens, et si je dis ce que je disais tout à l'heure, les seuls territoires non habités en permanence par l'homme sont là. Quel rapport on a, quelle expérience on a dans ces territoires-là. Et je dirais, ça va au-delà des crises, ça va comment on se ressource en montagne, effectivement. Si il faut que le genre humain prenne des distances par rapport à ce que nous avons fait au 19e, 20e siècle, c'est-à-dire être un peu des dominateurs sur la planète, être un peu en position de supériorité, s'il faut qu'on apprenne à revivre avec la vie terrestre, s'il faut qu'on apprenne à revivre avec le vivant, s'il faut qu'on apprenne à revivre avec cette beauté, avec cette... Vous savez ce qu'on représente sur la biomasse terrestre, les êtres humains ? Nous représentons 0,01% les biomasses terrestres. 0,01%. Et pourtant, nous mettons le bazar, si je reprends la COP Montréal sur la biodiversité, nous avons abîmé 75% de la surface terrestre. Donc, quelque part, réapprendre à vivre avec, dans le respect, à coopérer, je pense que la montagne peut être une expérience fondamentale. Et c'est là, je pense, où il y a une vraie question de vers quoi pourrait aller le tourisme, qu'est-ce qu'il faut développer. Et vous savez... Il y a des expériences là-haut qu'on peut vivre, on n'a pas le temps de les développer ici, mais qui sont d'une force, d'une intensité qui change les bonhommes, qui change qui nous change les êtres humains, quoi. Et allez, juste une petite, hein, parce que vécu il y a pas longtemps, mais des fois d'aller seul en montagne, c'est pas mal, parce que quand on est à plusieurs, on discute, on échange, c'est génial, mais quand on y va seul, on est beaucoup plus, on a les cinq sens qui sont complètement stimulés au maximum. Et là, je montais sur une crête de neige, une crête neigeuse, je faisais la trace, donc c'était dur un peu, c'était pentu, je brassais jusqu'au genou, et puis je vois une trace sur ma gauche, il y avait le soleil rasant, je vois une trace d'envol de tétralyre, caractéristique. Déjà, une petite émotion. À droite, un peu plus haut, je vois des traces hyper légères d'un écureuil. C'est hyper léger, ça avait à peine effleuré la neige. Et puis tout d'un coup, je vois une trace assez marquée de gauche à droite, rectiligne. Là, je connais un petit peu une trace de loup qui venait de passer, elle ne s'était pas effritée. Et je regarde à gauche, à droite, mais il est où ? Il n'est pas loin, il est par là. Bon, bref, des choses fortes. Et avec du recul, je me suis dit, dans ces moments-là, je me suis senti faire partie de ce monde, de leur monde, de notre monde. Nous, c'est notre monde à nous. Et les humains, il faudrait qu'on atterrisse parfois, qu'on remette les pieds sur terre, quoi. Et ça fait du bien de s'apercevoir qu'il y a les autres et qu'il faut vivre avec. La montagne, ça peut être un territoire d'expérience de vie à toute altitude. Et est-ce que c'est pas ça qu'il faut privilégier dans l'avenir du tourisme, dans l'avenir de la vie des territoires? Est-ce que c'est pas l'atout principal? C'est la spécificité du territoire montagnard.
Et un lieu de reconnexion au vivant dont on parle tant aujourd'hui et dont on se dit qu'on a tellement besoin pour préparer l'avenir. Olivier Erard, quand on est directeur de station de ski, on dit comme ça encore pour l'instant, ce que nous dit quand même en filigrane Freddy Maignan, c'est que, en tout cas de son point de vue, il semblerait que le ski tel qu'il est pratiqué aujourd'hui en activité massive soit voué à disparaître. Quand on est directeur d'une station de ski, comment on entend un propos comme ça ?
Moi, je l'entends très bien. Tout le monde ne l'entend pas. Donc ça, c'est une première chose. Et effectivement, il y a ce qu'on sait, et ce qu'on voit, et ce qu'on veut bien entendre, et ce qu'on veut bien voir. Donc, on est tous différents, et on a tous une capacité à être éveillés par rapport aux enjeux réels, hein, qui sont énormes, effectivement. Quand on parlait de vertige, oui, moi je trouve que le mot est juste, c'est que oui, ça va vite, et que si on ne prend pas les choses de manière réelle, bon, on peut vivre dans le déni, on peut ne pas voir et continuer, c'est-à-dire se convaincre que la technologie notamment va nous sauver, puisque c'est en général l'outil que l'homme a inventé pour s'en sortir. Donc bien sûr, la niche de culture, nous, si on l'avait pas fait, on serait déjà fermé, ce qui aurait peut-être eu déjà des conséquences un peu difficiles, mais on voit que voilà, la technologie de la neige de culture évolue. On sait faire de la, entre guillemets, de la neige, mais c'est de la glace à plus 20 degrés avec des usines à neige. Donc jusqu'où va-t-on aller? On est capable de couvrir des pentes par du gazon synthétique ou du plastique. Enfin, à un moment donné, c'est cette course en avant que le modèle finalement nous contraint de faire. Et donc, en fait, il faut s'attaquer au modèle. Et s'attaquer au modèle,
justement, c'est... Oui. Concrètement, à Métabier, comment vous vous attaquez au modèle? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent et vers quoi vous allez aujourd'hui?
Eh ben, le premier acte fort, et je crois que c'est ce qui nous distingue de beaucoup de stations, c'est que on a décidé politiquement d'anticiper la fin du ski. Voilà. Donc, ce mot fin du ski, moi, mon président Philippe Alpi l'a déjà dit en disant, on a quelque part, j'ai l'impression qu'on a brisé un tabou. Oser dire, venant d'exploitants de stations de ski, oui, il faut envisager la fin du ski. Et c'est pas moins de ski, c'est fin du ski.
Plus de ski.
Oui, parce que ce modèle-là, finalement, c'est un modèle qui a plein d'interconnexions, etc. Donc c'est d'une complexité remarquable. Mais son équilibre, en fait, dépend véritablement d'une rentabilité d'un produit qui a été construit de manière productiviste, à la tayloriste. Enfin voilà, c'est la recherche. C'est pas les plans neige des années 60. Ils ont été faits dans une ambition économique. Purement, c'est-à-dire on faisait de la promotion immobilière, on installait des remontées mécaniques. Oui, c'était pour donner un peu d'emploi à la vallée, mais il y avait aussi des ambitions de devises étrangères, et ça, l'État français l'a toujours dit, hein, je fais des stations aussi pour ramener de la devise étrangère. C'était aussi pour la compétition internationale, parce que vous évoquiez les champions du monde, mais c'est intéressant de voir comment le haut niveau est fortement lié au ski, hein. Moi je le constate quand je regarde l'histoire du ski sur mon secteur. C'est très il y a eu des impulsions comme ça très fortes après les JO de Chamonix, les JO de Grenoble, les JO d'Albertville. Enfin, à chaque fois qu'il y a et à chaque fois que nous on a des médailles olympiques, notamment en nordique, et ben moi je l'ai vécu en 2006 quand j'ai commencé à travailler sur le tourisme sur le secteur du Jura là. Il y a eu Turin 2006 avec deux médailles d'or, Florence Bavrel, Vincent Defrane. Derrière, il y a une vague d'investissement d'infrastructures énorme. Ça a des effets dynamisants, cet aspect-là. Donc, ça participe en fait à donner de l'énergie à ce modèle-là qui n'est plus le bon modèle. Voilà. Et donc, nous, le fait de dire stop, il y a ce modèle-là, il a une fin. Il a une fin. Voilà. Donc ça, c'est déjà.
À quel horizon de temps pour vous?
Pour nous, c'est au cours de la décennie 2030-2040. Donc la prochaine. Voilà. Donc ça conditionne les choix d'investissement qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire on ne fait plus de nouveaux investissements liés à la neige, on fait de la maintenance. Donc ça, c'est une rupture culturelle profonde. Dans les métiers des stations, c'est profondément un changement radical. Donc c'est un acte fort, c'est un acte très fort, dont on mesure pas forcément les conséquences sur l'ensemble du système qui nous entoure, hein. Donc pour accompagner, si vous voulez, cette espèce de bombe qu'on a balancée, on a mis en place une ingénierie spécifique pour accompagner, mais aussi faire émerger d'autres choses. Voilà. Donc c'est.
Alors justement, qu'est-ce qui va émerger?
Bah justement, c'est ça l'erreur qu'il faut pas faire entre guillemets, c'est de penser qu'on va tout de suite trouver une solution. Et ça, c'est le même mécanisme que celui qui a prévalu à l'émergence du plan neige. C'est exactement la même chose. Einstein disait, on peut pas résoudre un problème avec la même méthode qu'il a créée. Il faut changer de méthode. Il faut arrêter d'imaginer que on sait ce qui se passe. Ça, c'est très présomptueux. On ne sait pas ce qui se passe. Il faut l'admettre. On est dans la complexité. Je ne sais pas si vous connaissez Edgar Morin, mais c'est cette approche-là qu'il faut adopter. C'est on ne sait pas comment ça fonctionne. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ensemble, intuitivement se dire qu'il faut agir dans telle direction, on agit, on regarde comment ça réagit, et si ça réagit bien, on continue. Et si possible, on se donne un cap, une direction, tout en sachant qu'elle est fausse. Parce que personne ne peut savoir ce que nous dira l'avenir. Personne ne peut savoir ce que l'économie sera dans 2 ans, même dans 1 an. Moi, j'avais pas imaginé il y a 1 an la crise énergétique. Donc, vous voyez,
Métabier, quel est le cap alors?
Le cap, c'est le maintien du ski le plus longtemps possible avec une échéance qui risque d'arriver entre 2030 et 2040. Ensuite, c'est de transformer tout ce qu'on peut sur notre petit périmètre domaine skiable. Et je le dis à dessein, petit, parce que l'enjeu, c'est surtout d'agir sur l'ensemble du territoire de montagne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La transformation, elle est pas gigantesque. Hein. On transforme des bâtiments, d'ailleurs qui sont des passoires énergétiques, donc on fait d'une pierre deux coups. On avait une luge d'été qu'on a transformée en luge urbaine. On fait rien d'innovant, absolument rien d'innovant. Et surtout, ce qu'on a admis, c'est que la transformation économique de ce modèle-là ne pouvait pas se faire si on restait sur le petit périmètre du domaine skiable. Il ne faut pas imaginer que du VTT, de la tyrolienne, enfin tout ce que j'appelle l'effet catalogue et l'effet Disneyland. Ça, il faut l'éviter. Et malheureusement, c'est ce vers quoi même les pouvoirs publics nous emmènent. C'est-à-dire, on parle du tourisme 4 saisons, de la diversification. Moi, je hais ces mots. C'est juste ce que le modèle peut inventer pour se maintenir. Voilà. Donc c'est pas la question en fait. Ça ne suffira pas à remplacer le ski. Donc quand on parle diversification 4 saisons, c'est qu'on pense que le ski va continuer. Donc ça veut dire qu'on n'a pas bien pris en compte les réalités finalement. Donc on est un peu à côté de la plaque.
Freddy Maignan, c'est un extraterrestre sur la planète montagne, Olivier Erard, enfin dans le domaine des directeurs de stations de ski, ou finalement c'est une réflexion qui est portée aussi par d'autres, ou peut-être de manière différente. Enfin, comment ça se joue à l'échelle plus de l'ensemble des territoires de montagne?
Je dirais qu'Olivier, il est juste raisonnable et lucide. Voilà, donc extraterrestre non, mais bon, c'est vrai que pour le moment il y a tendance un peu à s'enfermer dans un tunnel, et je crois qu'effectivement là il y a une vraie responsabilité collective politique, les départements, les régions notamment, parce que vous savez, à vouloir sauver un système, qu'est-ce qu'on fait? En fin de compte, on fait des pansements. J'ai rien contre les pansements. Hein. Quand on saigne, des fois, faut se mettre un pansement. Mais un pansement, c'est pas ça qui construit l'avenir et c'est pas ça qui guérit non plus. Alors donc, une politique de santé, ça peut pas être une politique de pansement. Ça marche pas. Donc, et quand je dis pansement, par exemple, je pense au canon à neige. Un canon à neige, je dis pas que ça sert à rien. Bien évidemment, comme un pansement sert à quelque chose. Mais le problème, c'est que comme on met tous les moyens, faut se dire il faut sauver, donc on met des retenues collinaires, on met on en met partout parce que les Autrichiens ils en ont, donc on en met. Mais résultat des courses, est-ce que c'est pas en train de se retourner contre les territoires de montagne? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train, à force de subventionner à 80%, imaginez, vous voyez, je suis maire d'une petite commune, la région me donne 80% de subvention pour avoir des canons à neige, j'ai tendance à les prendre, sinon les électeurs, ils vont pas comprendre, quoi. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est pas un piège? Parce qu'au moment où il faut s'ouvrir. Par exemple, je continue cet exemple-là, c'est qu'on met, le pognon, on met l'ingénierie, on met le culturellement, on se dit, allez, on va s'accrocher, on va... Mais les hivers se réduisent, regardez, il a commencé le 15 janvier cette année, et ça se réduit, donc on met l'essentiel des moyens sur des périodes de plus en plus courtes. Résultat des courses, on met pas les moyens sur tout le reste qui est à inventer, comme le disait Olivier, pour une vie à l'année. Donc je pense qu'à vouloir sauver absolument aujourd'hui cette petite période hivernale, on est en train de faire prendre du retard à toute la montagne française. C'est-à-dire que, par exemple, je me dis, vous savez, si, allez, on va dire la moitié des subventions qui sont aujourd'hui accordées aux canons à neige, on les mettait pour encourager les jeunes à développer des activités artistiques, artisanales, agricoles, à l'année, des activités d'accompagnement en montagne, de découverte. Vous voyez, plutôt que de se dire on concentre tout sur deux mois dans l'année, on réfléchit comment les territoires peuvent vivre et les problèmes qu'il y a. C'est que, par exemple, aujourd'hui, les jeunes dans les territoires de montagne, comme la montagne est très prisée, bien au-delà des stations... D'ailleurs, entre nous, pour y habiter, les stations, ça a plutôt tendance à baisser le nombre d'habitants. Et par contre, ça augmente dans les vallées et dans les villes. C'est-à-dire que la montagne est prisée, mais pas les stations, en termes d'habitation. Et donc, mais par contre, prisée, c'est génial. Sauf que ceux qui veulent y développer des activités, ils n'ont pas accès au terrain, ils n'ont pas accès à l'immobilier, parce que c'est trop cher, parce que c'est infernal. Donc, s'il y a une aide publique, on la met sur quoi? Sur les canons pour deux mois par an? Où on la met sur une vie à l'année des territoires. Et ça, ça serait une sacrée impulsion. Et donc moi, je crois qu'il y a une responsabilité publique forte, mais il y a aussi collectivement, parce que c'est vrai ce que dit Olivier, c'est que moi, j'ai pas un schéma pour dire voilà comment ça va se passer en 2030. Il faut qu'on l'invente collectivement. C'est un défi auquel personne n'a été confronté. Mais je finirai là-dessus. C'est que, vous savez, les grandes crises sociales, on en a eu, ça a été douloureux dans d'autres régions, hein, en Lorraine, dans le Nord, le charbon, la sidérurgie, tout ça. Il y a eu des transformations qu'on n'a pas anticipées. Et donc, ça a été des drames sociaux qui ont martyrisé quelque part des territoires. En montagne, on a la chance de se dire qu'on sait que ça va arriver. Ok, la neige a fait vivre les territoires. Ok, elle ne le fera plus. On le sait. Donc, est-ce qu'on met pas tous les moyens maintenant pour anticiper cette transition, réflexion collective, action politique de tout point de vue, mais résolument, résolument, on sort du tunnel des canons à neige pour imaginer les choses, de façon à ce que on puisse anticiper une transition qui sera la moins douloureuse, voire qui pourrait être bonne même, parce qu'on doit pouvoir avoir un rapport à la montagne qui est chouette et qui est autrement que ce qu'on fait aujourd'hui.
Réflexion essentielle, nous dit Edith. Autrefois, dans chaque région, on s'adaptait à la nature après avoir observé l'environnement dans son entièreté et on en tenait compte surtout. On allait jusqu'à construire les maisons en tenant compte des vents dominants, par exemple. La montagne est l'épiphénomène qui alerte le plus fort, mais il faudra que notre rapport à la nature s'inverse dans tous les autres lieux également. Oui, nous avons inversé le rapport à nos lieux de vie. Nous nous sommes pris pour des démiurges grâce à un culte aveugle de la technologie, mais la réalité nous rappelle à l'ordre et merci à tous ceux qui réfléchissent et pensent au futur, un autre futur, nous dit Edith. Voilà, ben, je pense que ça vient assez bien conclure, ou presque, cette émission, Anne. Hein.
Oui, voilà, alors on peut se dire qu'il nous reste, il vous reste une minute chacun pour conclure. Peut-être qu'on pourrait conclure en mode d'adresse aux auditeurs et aux auditrices, si eux, qu'ils soient à la montagne d'ailleurs ou qu'ils n'y soient pas, comment ils peuvent contribuer à ces changements que vous appelez de vos voeux, à cette réflexion et aussi peut-être à avoir un impact sur les pouvoirs publics, puisqu'on comprend bien que c'est capital. Olivier Hérard, en moins d'une minute pour conclure.
Moi, je crois que, comme le disait Freddy, chacun peut agir, effectivement. Je pense qu'un des points clés aujourd'hui sur le modèle touristique de montagne, c'est la mobilité. Donc, si chacun peut faire un effort sur son choix de mobilité pour accéder aux destinations de montagne, ce sera déjà une contribution non négligeable. Après, c'est vrai qu'à l'échelle individuelle, changer le modèle, c'est pas possible. On reste toujours peut-être attiré par des activités. Donc, c'est au modèle de se transformer. Moi, c'est vrai que c'est plutôt mon axe d'intervention, c'est d'agir avec les parties prenantes du système et avec tous les socioprofessionnels. Et ce qui est assez magique, c'est que j'observe que je pense que chacun a en lui une capacité créatrice. Il faut aller la titiller, il faut partir avec ceux qui sont prêts. Et puis, il se passe des choses assez magiques. Moi, je le vis. Donc, c'est ce qui nous rend optimistes, en fait, sur le fait que cette fin d'histoire en ouvre une autre et qui est tout aussi, qui est passionnante à vivre.
Freddy Meignan, en moins d'une minute aussi.
Mais moi, je pense que dans ces crises dont on parle là, qui sont prégnantes, honnêtement, on a de la chance, entre guillemets. nous en montagne. On a de la chance, pourquoi ? Parce que on a un potentiel, des atouts naturels exceptionnels, vraiment exceptionnels, et on a des atouts humains aussi très fort, c'est-à-dire qu'on a, on le disait, des sociopros, des acteurs, des agriculteurs, des gens qui sont passionnés, qui, il y a de l'énergie humaine. Et donc, ça serait fou qu'on n'arrive pas à faire une transition, quoi. Ça serait hallucinant. Si nous, on n'y arrive pas, je vois pas qui va y arriver. Donc moi, j'ai vraiment envie de dire, il faudrait qu'on soit pionnier de la transition des territoires de montagne. Je pense qu'on en a les moyens, à condition qu'on accepte de travailler ensemble et à condition qu'on accepte aussi de se remettre en cause, quoi.
On n'a évidemment pas épuisé le sujet, on a fait que commencer à l'aborder, on vous réinvitera, il y aura des bilans d'étapes à faire, on conviera d'autres acteurs de la montagne, puis vous allez continuer Melchior pendant encore une demi-heure, une heure. Merci à tous les deux, Olivier Erard et Frédy Maignan.
Merci à tous les
deux.
Merci
à vous.
Et aux équipes merci également qui vous ont accueillis ce matin sur place, notamment Isabelle Jouffroy de Besançon et Stéphane de Buchère à Grenoble et puis Yvon Gargam également de Brest hein, qui vous accueillait. Anne, et c'est toujours un plaisir de vous entendre. Dans un instant, bah oui, on reste à la montagne qui coûte un peu cher parfois, la montagne qui n'est pas très accessible pour celles et ceux qui en sont un peu trop loin. On va en discuter, trouver des solutions, surtout dans la seconde partie, toujours avec vos appels au 04 72 38 20 23. Parlez-nous de votre amour pour la montagne. À tout de suite.